Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Je suis en compagnie de Patrick, nous sommes en duo, le binôme parfait, je le pense aussi, pour animer cette émission de 100% foot. Donc c'est parti pour une aventure qui continue, de l'Olympique de Marseille dans un second temps, évidemment. Nous allons parler de Martigues en Ligue 2, de Aubagne en National, également de la section féminine de l'Olympique de Marseille. Donc Martigues a joué récemment, donc ce week-end, voilà, un résultat peu probant. On attendait quand même quelque chose d'eux à Guingamp, mais c'était relativement difficile. Guingamp a donc battu Martigues 2-1, c'était pour la 32e journée. Il se trouve que le Red Star et Clermont, qui sont des adversaires dans une situation au-dessus de Martigues, ils ont fait match nul, 1-1. Voilà, les résultats, Annecy 2, Ajaccio 0, Rodez a fait match nul face au Paris FC, 1-1, et Lorient, bon, très facilement, à ses défaits de Caen, 4-0, qui est condamné à la nationale, qui va descendre. Alors, sur le classement, évidemment que la position de Martigues est toujours 16e, à 31 points. Le Red Star les précède à 15e avec 36 points. Martigues, donc, 31 points, pardon. Clermont, 29 points. Donc, essayons de conserver cette place de barragiste. Il va être très compliqué d'aller au-delà de ça, de sortir de cette position. Mais espérons que la 23e journée qui se disputera vendredi 2, Martigues reçoit le Paris FC, qui est l'équipe phare de ce championnat avec Lorient. Difficile d'obtenir un résultat face à eux, peut-être à Turquand. Donc, le 33e journée, Martigues-Paris FC. Voilà.
Oui, ça sera compliqué parce qu'on rappelle pour nos auditeurs que le Paris FC est second. Alors, Lorient est mathématiquement déjà en Ligue 1. Et le PFC, il leur faut un ou deux points pour être sûr d'être en Ligue 1. Donc, ils ne viendront pas à Turquan pour se faire battre. Et c'est une solide équipe qui, on le sait, a des moyens financiers qui vont arriver et qui sont très importants. Donc, ça sera compliqué pour Martigues. L'avantage, c'est que tu es barragiste, que Clermont est à deux points, que si Clermont ne marque pas, ne gagne pas, même barragiste, c'est quand même une chance de garder ton maintien. Il va falloir être courageux, mais l'équipe se bat, ils n'ont jamais lâché. C'est une équipe qui fait ses matchs avec ses moyens qui ne sont pas extraordinaires. C'est le plus petit budget de
Ligue 2. Il est vrai, nous ressentons une certaine solidarité depuis l'arrivée d'Hakim Malek, qui a un petit peu solidifié cela dans l'esprit.
Oui, qui a dû trouver les mots pour rebooster les gars. Et donc, c'est une équipe qui s'accroche. Et on va essayer de jouer le maintien, sachant qu'il y aura la DNCG à la fin de la saison et qu'il se peut qu'il y ait un coup de chance, quoi.
Donc, qui pourrait sanctionner Ajaccio, en l'occurrence.
On parle d'Ajaccio, de Bastia, qui aurait des difficultés. On parle de Martigues aussi. Mais
Martigues pourrait bénéficier d'un avantage
à ce
moment-là.
Ouais. En tout cas, bon courage aux Martigues. Et ils auraient fait une saison avec les moyens du bord qui a été vraiment courageuse. Voilà.
Oui, il est évident qu'ils ne vont rien lâcher jusqu'au bout, mais rien n'est terminé, l'aventure continue. Il reste deux matchs, me semble-t-il.
Deux matchs, oui. Ouais.
Donc, on va savoir tout cela très très vite. Voilà, en ce qui concerne la nationale et la 31e journée, là, ça a été une superbe performance, non pas, mais superbe résultat d'Aubagne qui a battu Châteauroux 6-2 pardon, à Delâtre, à Aubagne. Et bon, il y a une triplée de... Alors, j'ai toujours du mal avec ce joueur qui a été cédé à Nantes prochainement.
Benatab,
tout à fait. Quel joueur, le virtuose d'Aubagne actuellement. Et ça sera un mal, certainement, de le perdre la saison prochaine. Mais bon, Aubagne est très, très bien positionné dans cette position idéale. Ils sont toujours, donc, 8e. Et voilà, c'est la position idoine, idéale, pour terminer cette saison. Voilà, avec quelques matchs, la 32e journée. Aubagne, à domicile, recevra Orléans le 2 mai, donc vendredi. Et voilà, il reste donc 3 journées. Ensuite, il faudra aller au Costières à Nîmes, donc le Ouais, la semaine suivante et la dernière journée sera donc la 34e au Bagne, on recevra Valenciennes. Donc, aucun souci à se faire pour cette équipe, le maintien est assuré.
Voilà, oui. Et pour Benatab, ben, quand tu as un gamin de 19 ans qui est talentueux, mais enfin, c'est pas non plus la mini à mal, hein. Mais bon, oui. Et qu'il vient un club de Ligue 1 qui te propose un contrat pro. C'est sûr qu'un club de national, tu ne peux pas le garder. Hein. Et bon, il y a eu un peu des problèmes de comportement, mais c'est un jeune. Et ça s'est recadré, et là, il a fait un très gros match, 3 buts, 2 passes. Enfin, il a
une implication totale, oui, sur cette fin de saison. Voilà. Et en tout cas, il n'y a pas que le côté financier dans la gestion, il y a la gestion humaine. Ouais. Et en l'occurrence, ça se passe très très bien, voilà, et que ça continue ainsi jusqu'à, ouais, la fin.
Voilà, et bravo à Aubagne, parce que venant de National 2, c'était pas évident de se maintenir en première saison en National. C'était pas évident. Voilà.
C'est à souligner.
D'ailleurs, tu disais juste un mot, tu disais qu'ils vont jouer à Nîmes dans deux journées. Oui. Nîmes, ancienne équipe de Ligue 1 et de Ligue 2, se bat pour rester en National.
Mais je crois que va être compliqué de maintenir,
oui,
pour ne pas dire une bataille à la Cervantes, se battre contre des moulins avant. Leur sort est justement scellé pratiquement.
Ils sont très 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 en difficulté, le Nîmes Olympique.
C'est très dommageable pour le football français, Nîmes étant une équipe et un club de historique de ce championnat.
Voilà.
Voilà, on va faire un petit clin d'œil et avec un grand sourire sur la D2 Arkema, dont l'OM est pensionnaire et second de cette division, avec Lens qui est toujours premier avec 42 points. L'OM est là derrière à 3 points, 39. Toulouse, bon, est troisième à 37 points. Bon, le destin est dans les pieds et les mains de notre équipe féminine, sachant qu'il reste 2 matchs. C'est Malo, l'OM se déplacera le 11 mai. Oui. Et le dernier match sera contre Toulouse la semaine suivante. Mmh. Alors, il y a encore une chance de finir premier de ce championnat, voire second. Alors, ça se discute. Bon, une accession est probable, non pas certaine, mais nous y croyons et il y a de fortes chances pour qu'elle réussisse cela. Ouais. Donc, on est de tout cœur avec elle et nous les accompagnerons. Enfin, je suis leur match tant que possible. Et je prends beaucoup de plaisir, justement. Parlons du résultat du dernier match. L'OM a tout de même battu Orléans 1-0 en fin de match. Avec quelques petits soucis de mise en place de ce match, c'était sous les yeux une fois de plus, pour la seconde fois de la saison, de Longoria et de McCourt qui étaient en visite. Et ça leur a encore porté chance, une victoire de l'OM, de plus. Voilà, donc parler très rapidement du classement. Donc Lens 42 points, l'OM 39. Alors à très bientôt les filles et faites-nous rêver. On va commencer à parler de cette chère Ligue 1 qui va bientôt arriver à son terme, c'est-à-dire dans pas longtemps. Il reste trois
journées.
Trois journées, n'ayons pas peur des mots.
Ouais.
Je pensais déjà au match de Lille, mais on va commencer à parler et à donner rapidement les résultats. Et le classement est quelque chose d'assez hallucinant, sachant les trois journées qui restent. Alors bon, vendredi, pour cette 31e journée, le Paris Saint-Germain, une fois et coutume, en l'occurrence, a perdu à domicile 1-3 face à Nice. J'ai du mal à le dire, tellement que le résultat était assez particulier. Donc ensuite, le lendemain, Strasbourg a battu Saint-Étienne 3-1. Ça ne nous arrange guère, mais c'est comme cela. Le Havre et Monaco ont fait match nul. C'était un peu plus réjouissant pour les supporters marseillais que nous sommes. Ensuite, Lyon a battu 4-1 Rennes. Angers a perdu à domicile face à Lille 2-0, notre prochain adversaire. Lens a échoué à la maison, écrasé par Auxerre 4-0. Montpellier-Reims 0-0. Nantes et Toulouse, match de parité 0-0 également. Et nous avons terminé sur cette note que nous aimons, ce fameux dimanche où nous gagnions de manière prolixe 4-1. Brest, nous les avons défaits, Patrick.
Oui. Et je tiens à dire, pour l'analyse un peu, c'est que Brest, c'est une équipe que j'ai beaucoup appréciée en Ligue des Champions, où ils n'ont pas eu peur, ils ont joué leur jeu, ils ont essayé, et ils ont fait un très beau parcours, ils sont en 16e de finale.
Avec des résultats magiques.
Tout à fait intéressant. Et là, ils nous ont montré encore dimanche soir, c'était une belle équipe, c'est-à-dire que c'est... Au Vélodrome, il y a tellement d'équipes, même des grosses équipes ou prétendues telles, qui ferment le jeu, qui jouent à 10 derrière. Eux, ils ont joué, ils ont essayé de marquer. Ils ont marqué un but. Ils auraient pu en marquer peut-être un ou deux de plus parce qu'ils ont attaqué. Mais au moins, tu vois un vrai match de foot.
Il est vrai. Nous n'avions pas affaire à une équipe qui fermait le jeu. Oui. Et en même temps, ils étaient capables de faire des incursions assez intéressantes dans notre camp. Et ils ont eu des occasions, une fois de plus, Rouli était présent. Notre défense, et on va y reparler et très rapidement. On va commencer par cela. Nous avons donc démarré avec une défense à 4 en fin de retour. Nous l'attendions, peut-être que ce stage, cette retraite dans le nord de Rome a été bénéfique avec le retour de Balerdi. C'est un ensemble de faits qui ont fait que... Alors peut-être qu'on va commencer par parler de cela, ce retour de Milan avec ces 4 joueurs derrière justement, et cette mise en place qui a été évidemment... qui nous a...
Tout à fait positive. Ah, sur, après, c'est vrai que le retour de Balerdi, qui est un défenseur central assez rapide et qui est très bon dans la relance, c'est un Argentin qui a une belle technique et qui, dans la relance, est propre. On fait des relances de bonne qualité. Te permet de jouer à 4. Parce que, surtout quand tu as deux latéraux comme Murillo, et il avait choisi de mettre Ulysse Garcia... plutôt que Quentin Merlin, parce que Garcia est meilleur défenseur.
Nous en avions parlé, justement. Oui. L'apport de ces deux joueurs ont justement peut-être inspiré De Zerbi à remettre une défense à 4, avec le retour de Balerdi, justement. Et Kondogbia, toujours présent.
Kondogbia a fait son match. Bon, après, il est pas rapide, on le sait. C'est un joueur assez lent. Mais il a une bonne qualité de relance, il a été, même si on va dire sur le but brestois, il fait une erreur de relance, il rate un dégagement, et que après, ça n'empêchait pas les collègues derrière de contrer, de compenser.
On est bien d'accord.
Mais c'est un peu à lui qui a l'origine, mais sinon il a fait un match très correct. Et Murillo apporte beaucoup offensivement, Garcia a fait aussi un match très correct. Et c'est une bonne chose. Et ça t'a permis d'avoir un milieu à 3, où même s'il a, raté des passes, il a raté des trucs, Rongier a fait un match correct. Højbjerg, qui revient de blessure, a fait un match correct.
Également.
Et, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé, il avait mis en fait un 4-2-3-1.
Oui, un 4-2-3-1, tout à fait.
Alors le truc un peu compliqué, c'est que Rabiot était en 10. C'est pas vraiment son poste. Et il a beaucoup travaillé. Mais du coup, ça a permis de remettre Greenwood ailier droit, Luis Enrique ailier gauche. Luis Enrique qui a fait un très bon match.
Voilà, le retour de Luis Enrique côté gauche.
Sur un poste où il est plus à l'aise, ce qui ne l'a pas empêché de travailler, mais il est quand même passeur décisif sur le premier but. Et Greenwood a été intéressant sur l'aile, parce qu'il est moins dans l'entonnoir et... Il est plus souvent à une contre un, c'est quand même un bon dribbleur et un fin joueur.
On connaît ses qualités. En même temps, son implication a été beaucoup plus importante sur ses face à Montpellier et face à Brest. Oui. Ça a été plus criant, de vérité. C'est pas ce qu'on demande à la base à un attaquant, un buteur, entre guillemets. C'est le cas en ce qui le concerne. Sauf que, évidemment, qu'il a apporté énormément au collectif, que ce soit sur ses replis défensifs, sur ses incursions offensives et également il était à l'origine d'un but
d'un but parce qu'on n'a pas parlé du 11e qui était l'avant-centre qui était Amine Gouiri qui a fait une très très gros
justement
match.
Justement
et il a été excellent en début de match. Il a eu un rôle déterminant, parce que si vous vous rappelez la dernière émission, on parlait moi entre autres en disant contre Brest il faudra gagner. Parce que sinon, la Ligue des Champions s'est compromis.
Oui.
Et quand tu marques un but à la 8e et que tu ouvres le score, ben, c'est toujours mieux. Et sur une très belle passe de Luis Enrique, un changement d'aile, contrôle parfait, mm-hmm. et une frappe croisée au ras du poteau qui a battu le gardien de Brest et qui a ouvert le score. Il a été donc très déterminant.
Ah oui.
Et que dire du troisième but de l'OM, ce second but,
voilà.
Ciseau retourné que nos auditeurs ont dû voir à
une passe décisive de Greenwood, et
voilà.
Un contrôle orienté comme pouvait imaginer un mauvais centre, pas du tout, un contrôle qui était justement prêt à faire ce ciseau acrobatique. Quel but!
Oui,
pour l'instant, on peut parler
but,
du plus beau but de l'année, on n'en est pas loin.
En championnat de France, oui. Et en seconde mi-temps, il a une belle action, bien lancée par Rabiot.
Ah, Rabiot, oui.
Alors, il était limite, mais on a revu les images, il n'est pas hors jeu, l'arbitre a validé le but. Et
ouais.
il s'est présenté.
Après, on regarde
de la
VAR,
oui,
pour une fois, l'a fait à l'envers,
oui.
C'est-à-dire qu'il a déjugé son arbitre pour qu'elle, ouais. justement, valide le but.
Alors, l'arbitre de touche a levé le drapeau. Donc, elle a demandé à la VAR et la VAR a validé le but en disant qu'il était couvert par un défenseur. J'ai revu les images après. C'est le défenseur latéral de l'autre côté, Eidara, l'arrière-gauche, qui le couvre, en fait.
Ça reste très aléatoire,
voilà,
ce genre
que,
de jugement.
Voilà, c'est-à-dire que tu as les autres qui sont montés. L'arrière-gauche, il était en retard.
Ouais.
Et c'est lui de l'autre, à l'autre côté du terrain, parce que Guiri est côté gauche de l'attaque de l'OM, donc côté droit de la défense de Brest. C'est l'arrière-gauche de Brest qui couvre ce que Luis Enrique avait fait à Monaco sur le but de
Nous avons
Dembolo,
vu une action
hein.
similaire en
voilà.
seconde partie de jeu, où
oui.
là, par contre, le but a été refusé
oui, oui.
et qu'on avait plus qu'une impression. C'était exactement la même situation
voilà.
et le hors-jeu n'était pas du tout évident. Quoi.
Oui, oui, c'était extrêmement limite. Vous savez que maintenant, on a l'impression qu'il y a la chaîne d'Arpenteur, et là,
ouais.
voilà quoi. Mais disons que bon,
l'œil humain et ses interprétations.
Voilà, Guiri sur l'action, il a un ballon très bien placé, il fixe le gardien, il le place en deux portées et il met un super but d'avancante. Il a fait
oui.
un très très bon match. Mais disons que l'OM nous a rassurés avec une très bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps en contrôle où défensivement. Il y a eu, bon, deux, trois alertes, hein. C'est normal.
Il est vrai, avec quelques changements juste d'issue, justement, la rentrée de Menacer également.
Oui, au milieu qui a bien quadrillé, l'entrée de Rowe qui a mis de la pêche devant,
oui.
même si il manque une grosse occasion, mais enfin...
Il a essayé.
Il a essayé, voilà. En tout cas, il a mis le feu. Et oui, des entrées tout à fait intéressantes. Une entrée d'Arid qui a été
oui,
pas
toujours.
Mal, voilà, toujours sympa.
Il retrouve
et
des sensations.
Voilà,
de jeu.
Merlin qui est rentré à la place de Garcia.
D'Ulysse Garcia.
Et puis, Balerdi qui est rentré de blessure, qui a été remplacé par Cornelius. 20 minutes de la fin.
Oui, il fallait pas le faire jouer plus,
oui,
je pense.
Voilà,
il fallait assurer le score avant.
Voilà,
c'est un peu taquin ce que je dis.
À 4-1, il revient
ouais,
de
ouais,
blessure,
ouais.
tu le sors, tu prends pas de risque. Et donc, ce qui, moi, m'a surtout intéressé, c'est que tu avais une équipe qui a fait son match, qui était bien en place, bien organisée, et ça a permis de clouer la gueule de tout un tas de journalistes parisiens, radio et tout, qui se moquaient du stage qu'on a fait en banlieue de Rome.
Hein,
on rappelle qu'ils sont allés à Rome parce qu'ils n'ont pas trouvé en Provence tous les trucs comme Malemort où ils avaient fait un
on
petit stage.
On peut trouver
stage.
Une retraite tranquille,
voilà,
enfin, on parle bien au niveau professionnel,
mais,
sans aller aussi loin pour
voilà,
eux.
Mais ils n'ont rien trouvé dans la région, donc ils sont allés en Italie. J'ai vu à la télé les installations, j'aimerais y passer mes vacances.
Oui, un hôtel 5 étoiles avec un complexe.
Avec une super piscine et tout. Et donc, ils ont fait. Et ma foi, ça avait fait bien rire et bien parler les journaleux parisiens. Mais finalement,
ça porte bien ses fruits.
Ça s'est avéré efficace.
Une cohésion, nous l'avons retrouvée depuis ouais. quelques semaines. On pensait l'avoir peut-être perdue au sein du groupe.
Ouais.
En tout cas, on a bien vu l'efficacité et justement l'implication de chacun des joueurs et qui a essayé de donner son maximum pour le bien de l'équipe.
Oui, oui, oui. Et en particulier, tout le monde a vu la grande implication de Greenwood, de Luis Enrique.
C'est très notable, voilà, hein, c'est ce qui faisait défaut dernièrement.
Des garçons. Luis Enrique, on l'avait dit à cette antenne, hein, quand tu as des clubs comme l'Inter, le Bayern qui viennent te au renseignement, ça peut perturber un jeune joueur qui se voit déjà parti.
C'est évident.
Et c'est sûr que pendant quelques semaines, il était à la rue. Là, il a fait un match où, dans l'implication, il y a été.
Oui. Bon, il n'est pas tout à fait au fait ou à la possession totale de ses possibilités de jeu.
Oui.
C'est pas encore ça, entre guillemets, mais il est en progression constante de son implication de jeu. Et je dirais, il va pouvoir continuer à donner des ballons de but. Oui. Et nous l'espérons sur les trois matchs à venir, en tout cas.
Voilà, surtout, on l'espère dimanche à Lille, parce que on va avoir besoin de toutes nos forces, parce que Lille est une belle équipe. On l'a vu comme Brest, on les a vus en Ligue des Champions. C'est costaud. C'est très costaud et ils lâchent rien puisqu'ils sont allés gagner à Angers, qui n'est jamais évident. Hein. Angers se bat pour le maintien. C'est une
voilà
équipe
les matchs pièges. Hein. Alors, d'ailleurs, on va y avoir droit nous aussi. Nous allons jouer face au Havre après.
Voilà, et oui, les équipes, parce que des fois on entend des remarques, mais après Lille, on va au Havre et on reçoit Rennes, c'est bon, on a 6 points.
Non, c'est les contextes de ces matchs qu'il faut comprendre.
On rappelle que dimanche dernier, Monaco s'est fait tenir en échec au Havre, même partout.
Eh oui.
Et pourtant, Monaco, eux aussi, ils ont besoin d'aller en Ligue des Champions et eux aussi, ils ont une bonne équipe.
Mais l'envie de survivre donne des ailes.
Voilà, oui.
Pour une équipe qui peut être reléguée. Ouais.
Et moi, j'avais vu le derby Saint-Étienne-Lyon.
Oh, que oui.
Saint-Étienne, la manière dont ils sont rentrés dedans, ils se sont battus. Tu vois que les mecs, ils n'ont pas envie de descendre.
Au-delà des incidents, des événements.
Oui, oui, au-delà de la pièce de monnaie sur l'arbitre et compagnie, les mecs se sont battus. Un peu trop par moment.
Oui.
Mais voilà. Mais donc, ce n'est pas encore fait.
Non.
Mais disons que l'avantage, c'est qu'on est 2 points devant Lille. On est 3 points devant Monaco. Et ça veut dire que si on arrive à ramener ne serait-ce qu'un nul de Lille, tu peux anticiper que la Ligue des Champions... On rappelle que les 2e et 3e places sont qualificatives automatiques.
Et la 4e...
Mais la 4e te donne 2 matchs de barrage au mois de juillet, fin juillet et début août.
N'y pensons pas.
Et c'est très compliqué parce que tu peux te retrouver avec des gros morceaux. On rappelle que cette saison, Lille s'était qualifiée, alors que les 2-3 dernières saisons, l'OM contre le Panathinaikos Athènes, on s'était fait éliminer.
Que de souvenirs
désagréables.
Nous voulons oublier.
Voilà, et Monaco aussi était passé 2 fois à la trappe.
Laissons tomber les barrages.
Voilà, il faut éviter. Ne serait-ce
pour synthétiser ton propos rapidement au niveau du classement, si tu le dis si justement l'OM est là, parce que je parle plus des premiers, l'OM 58 points quoi, donc Lille 3e 56, l'AS Monaco 55, Lyon 54, Nice 54, Strasbourg 54 points. Voilà. Bon, Lens est un peu hors course, 8e avec 45 points. Mais alors, quel sprint final, quoi. Ouais. C'est assez fabuleux. Nous rencontrons donc Lille, qui a 2 points, de moins que nous, sur la prochaine journée, quoi.
Ça sera un match compliqué. Alors, avec un petit avantage très léger, c'est que le défenseur central de Lille, Diakité, s'est fait expulser à Angers.
Ouais.
De toute façon, il était, je crois,
c'est l'accumulation de cartons jaunes.
Il était déjà suspendu. Bon. Donc, il ne jouera pas. C'est quand même le patron de la défense.
Et puis, leur fameux joueur, j'ai toujours du mal.
Zegrova,
tout à fait.
Lui, il n'est pas remis de sa blessure et donc ne jouera pas.
Un élément majeur de cette équipe.
Probablement pas de la saison. Ouais. C'est vraiment le joueur déstabilisant. Mais Diakité, on nous rappelle qu'au match aller au Vélodrome, même partout, c'est lui qui égalise pour Lille à la 85e sur un corner, un coup de tête. C'est un très bon défenseur. Et donc, ils sont absents.
Qui nous a fait mal à la tête, c'est le cas de le dire.
Donc, c'est très probablement Aïssa Mendy, l'international algérien, qui le remplacera. Mais ça veut dire que si tu fais rentrer Mendy, tu n'as pas de remplaçant à droite pour Meunier, puisque Thiago Santos, le Brésilien,
est
blessé. Voilà. Mm-hmm. Il est blessé, il s'est fait les croisés, il est out pour la saison. Donc, ça veut dire que leur défenseur polyvalent remplaçant, il sera titulaire. Ça peut être un petit avantage. Mmh. Il faut gratter un peu tout. Il faudra surtout que l'équipe ait la même état d'esprit d'engagement, de pressing, de combat. que ce qu'on a eu contre Brest.
Il n'y a pas de raison que cela change. Cette dynamique est vraiment belle à voir, belle à vivre. Je ne suis pas proche d'eux, mais ils sont avec moi quelque part. Je suis avec eux et je ressens justement ces vibrations positives d'une envie collective.
On le dit, alors il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? Alors il faut savoir qu'en Italie, c'est très fréquent, oui, hein, les retraites,
les ritiro
qu'ils appellent. Voilà. Et donc, De Zerbi, italien, entraîneur en Italie et tout, il y a,
pour les médias français le prennent en grippe.
Voilà, mais le truc, c'est que ça te permet, tu es donc à l'hôtel, ça te permet d'avoir des loisirs, de rigoler, de parler, mais ça permet aux anciens, aux Rabiot, Højbjerg, les leaders, Benacer, oui, les grandes gueules du vestiaire,
de ressouder, voire de remobiliser parfois.
De parler à, à leurs équipiers, de remonter un peu les mecs. Et quand même, tu vois des mecs qui sont internationaux. Højbjerg, c'est le capitaine du Danemark.
Ah, oui.
Rabiot, tout le monde le sait en France, la place qu'il a, le nombre de sélections. Et Benacer, c'est un des capitaines de l'équipe d'Algérie.
Oui.
Voilà, et Kondogbia, capitaine en
République centrafricaine. Oui, ce sont des joueurs
centrafricaine
avec une expérience,
voilà,
évidemment.
Beaucoup de métiers.
De métier, ouais.
Et donc, ces joueurs-là...
Ils n'ont pas rechigné, justement, à ce rassemblement.
Voilà, ils sont là, et ils parlent, et ils remontent les mecs, et peut-être que... Le regain de forme d'un Greenwood, d'un Luis Enrique ou Robbe qui est revenu dans le jeu.
Ce phénomène-là n'est pas étranger à
cela. Parce que tu es en stage, tu parles, les anciens te parlent, ils te conseillent, il y a des discussions, ça permet au staff de parler aussi. Le fait d'avoir un staff pléthorique te permet que tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui parle aux joueurs.
Ce qui est pléthorique, au-delà du staff, il y a toute une équipe médicale et un ensemble de personnes, 50.
Alors, moi, je le dis parce que c'est un truc, ça a donné des blagues à la noix de journalistes parisiens qui ironisent, ça coûte cher, c'est machin. Wow. N'empêche que contre Brest, moi, je pense qu'on a vu le résultat et j'espère qu'on le verra à Lille. Et voilà, et après, si à Lille tu gagnes ou tu ramènes un nul, je pense que tu ne retournes pas en Italie deux semaines suivantes.
Tu penses qu'après Lille, ça
Oui, parce que tu vas rester un peu à la maison. Ajoutons un dernier mot pour Greenwood. Les gens ne savent peut-être pas, mais sa femme a accouché
de leur deuxième enfant
il y a un mois et demi. Oui. Et donc, le mec, il habite avec sa femme et deux gosses, dont un petit nourrisson qui a un mois et demi.
Il a moins de 23 ans.
Donc tu dors pas, le bébé, il pleure, on a les trucs la nuit. Donc, ça peut aussi expliquer un certain décrochage, une certaine baisse de forme. Là, étant en stage, le mec, il a bossé.
Bien évidemment que les facteurs psychologiques sont des facteurs de vie, tout simplement. Pas que des facteurs footballistiques.
Voilà, exactement. Et donc, tu te retrouves. Et c'est probablement... Alors, il ne faut pas non plus le faire trop souvent. Mais c'est, en tout cas, je pense que le staff l'a senti comme ça. C'est-à-dire que le groupe avait un peu un problème de cohésion. Hop, on fait un truc. Et on sait de manière certaine, c'est que avant de le décider, et Longoria et Benatia et De Zerbi, surtout De Zerbi, ont demandé à leur cadre. C'est-à-dire qu'il a réuni son conseil des sages, il y a Rongier, Kondogbia, Balerdi, Højbjerg, Rabiot, et je crois que c'est Benacer le sixième, il leur a dit ce que vous en pensez, les gars. Et les six, ils ont dit banco.
Il est évident que les joueurs sont les premiers consultés.
Oui.
Ils étaient unanimes. Je ne crois pas qu'il y ait, au-delà des cadres qui donnent l'idée et l'envie à leurs coéquipiers. Non, c'était unanime, comme envie de se réunir et de se retrouver.
Oui. Donc et surtout que là, je ne sais pas si... On va une information.
Ils ont pu rentrer chez eux deux matchs.
Oui, ils sont rentrés vendredi parce que l'enterrement du pape faisait que samedi il y avait des problèmes d'avion. Ils sont rentrés un jour avant. Ils sont rentrés vendredi, ils sont rentrés dormir à la maison samedi. Dimanche après le match, ils sont repartis mardi en Italie.
On peut parler de Dolce Vita quelque
part. Voilà. Mais le truc, c'est que quand même, c'est pas non plus des bagnards avec les salaires.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Faut un peu arrêter. Mais c'est vrai qu'on a eu l'info lundi que le président de la DNCG avait averti les clubs qu'il ne fallait pas compter sur les droits télé dans les budgets prévisionnels au mois de juin, là, pour l'année.
La période est critique.
Voilà, la saison à venir. La période est très critique. Une qualif en Ligue des Champions qui te garantit au moins 40 et quelques millions pour le dernier qui n'est pas qualifié pour les 16e. On sait que Brest a touché 52 oui. millions, Lille à peu près pareil, Monaco dans les mêmes eaux, Paris sont hors course.
Hors concours.
Voilà, hors concours. Mais une cinquantaine de millions garantis, ça te permet de faire venir des joueurs. Ça te permet d'en garder certains.
Ça te permet surtout aussi d'équilibrer des comptes.
Et d'équilibrer les comptes.
Très simplement.
Et de passer devant la DNCG en disant, voilà, on équilibre. On sait que McCourt mettra la main à la poche en juin avant de passer devant la DNCG, parce qu'il y a un déficit oui. dû au fait qu'on n'était pas en Coupe d'Europe. Et donc l'absence des droits télé rend indispensable la participation. Et au niveau des Coupes d'Europe... La Ligue des Champions, c'est le triple
oui, ça rapporte,
de l'Europa League.
Ça, je crois que c'était un peu plus que le double, d'accord.
Voilà, ouais. C'est entre le double oui. et le triple. Hein, c'est-à-dire, l'Europa League, Lyon, ils sont sortis en quart de finale, ils ont touché 20 et quelques millions. Quoi. Mm-hmm. Brest, il est sorti en 16e, il a touché 52.
Voilà, au-delà des apports financiers indirects d'une qualification.
Voilà, des droits télé de, oui. et du remplissage du stade. Voilà. Et donc, c'est fondamental.
Tout à fait.
Et ça serait une catastrophe économique de ne pas se qualifier en Coupe d'Europe. Hein. Ça serait un désastre. Hein. Et voilà.
C'est tellement évident. D'ailleurs, McCourt en a forcément conscience. Il doit le rappeler très souvent. Longoria, notre ami, doit avoir les oreilles qui sifflent parce que l'inquiétude était plus que sous-jacente.
Oui, oui, oui.
J'espère que ce ciseau, ce but magnifique de Gouiri, n'ont pas ensorcelé notre président financier, McCourt, mais l'inciter peut-être à aider cette équipe à aller au bout de ce projet-là. Et l'année prochaine, évidemment, il va falloir passer à la caisse pour se renforcer.
Oui.
Parce qu'on va y aller en Ligue des Champions, Patrick.
Oui, on va y aller et... Par contre, quand tu regardes cette saison, comme on l'a fait nous, hein, je rappelle à nos auditeurs, moi je suis abonné, j'ai vu tous les matchs,
et oui.
j'ai vu tous les matchs à l'extérieur à la télé. Je ne sais pas, vous les verrez l'année prochaine, mais cette année je les ai vus sur DAZN.
Nul ne le sait.
Voilà, nul ne le sait. Mais tu as quand même besoin de te renforcer méchamment parce que ton banc est faible.
C'est un euphémisme.
Voilà, ton banc est léger et quand tu regardes... Hier soir, j'ai regardé un club français.
Ne me dis pas que tu as regardé ce match.
Oui, j'ai regardé, bien sûr. Et tu te rends compte que Arsenal, il leur manquait 4-5 joueurs,
ouais.
dont 2 titulaires et 3 titulaires indiscutables. Tu te rends compte que ça fait mal. Hein. Gabriel en défense, ils avaient parté au milieu de terrain, ils avaient Kai Havertz en attaque qui était absent et blessé.
Ah, ça déséquilibre toute une équipe.
Ça t'affaiblit et quand tu vois les gros clubs, tu vois qu'ils ont des bannes, ça fait peur. Quoi.
Ouais.
Je regardais samedi soir la finale de la Coupe d'Espagne Barça-Real.
Oh oui.
Lewandowski est blessé, c'est Ferran Torres qui le remplace. Alors, c'est moins fort que Lewandowski.
Oui, mais ça perd guère au sens.
Mais c'est quand même un sacré ouais. joueur qui a mis un super but. Et donc, je veux dire, c'est quand même... Voilà. Et toi, ton banc, il est quand même un peu juste. Quoi.
Au-delà du banc, commençons par les personnes présentes titulaires.
Oui.
Commençons par une défense.
Ouais.
Si on veut vraiment jouer à 4 l'année prochaine, ce qui doit être le cas a priori, il faudra évidemment, au-delà des latéraux, défenseurs centraux. Alors, est-ce qu'on garde l'option Balerdi que nous allons conserver? Parce
oui,
que
oui.
la valse du mercato, évidemment, est très très proche, au-delà de la qualification prochaine.
Mmh.
Donc là, quelles sont les attentes sur nos défense qu'il faudrait reconstruire, un milieu qui est présent, qu'on va densifier, qu'on va conserver, et une attaque, peut-être
oui.
l'attaquant miracle que nous allons recruter.
Alors là-dessus, pour faire un peu, parce que c'est un peu tôt, puis moi j'aime
oui.
pas trop tirer des plans sur la comète,
oh, oui.
mais on parle d'Emeric Laporte, qui est quand même un titulaire en équipe d'Espagne et qui est actuellement en Arabie Saoudite, qui souhaiterait revenir en Europe.
Oui, un grand défenseur, mais d'un grand âge, qui
ouais,
a une expérience
ans,
ouais. extraordinaire.
Bon, qui a quand même joué à Man City pendant plusieurs années et qui est, bon, actuellement, il est au Qatar, il est dans l'équipe Al-Nasser, l'équipe
ouais, ouais,
de,
ouais.
de Cristiano, ah, mais Ronaldo, il joue, ouais. Il est titulaire. Mmh, mmh. Hein. Mais lui, il veut revenir en Europe. On parle de Machado, l'Argentin de Lens, qui est un joueur intéressant, méchant. Et donc, mais enfin,
je pense qu'ils sont sur des listes,
très bien placés. Ouais. On parle aussi de l'ancien niçois qui s'appelle Olivier Boscagli, qui est un bon joueur, qui joue au PSV Eindhoven aux Pays-Bas et qui a l'avantage d'être en fin de contrat.
Donc la liste peut être exhaustive, mais il faudra bien cibler justement reconstruire une défense.
Une défense costaude. Après, il y aura un problème de qualité défensive sur les côtés. Au milieu, tu as à peu près garni, ça va, tu as même des remplaçants de qualité, si tu gardes tout le monde.
C'est important ce que tu dis, Patrick, parce que la qualité doit primer, mais en quantité, évidemment, nous devons avoir un banc assez fourni, oui, et justement,
si
pour
si
toutes
tu
ces compétitions.
Si tu prends sur l'équipe actuelle, si tu lèves l'option d'achat de Bennacer, ça te fait Bennacer, Hoiberg, Rabiot, Rongier, Kondogbia et Bilal Nadir.
Ouais.
C'est solide, tu as du talent, de la qualité, tu as un jeune intéressant. C'est plutôt devant qu'il y a Greenwood s'il reste.
Voilà, point d'interrogation.
Et Guiri qui est un très bon joueur, mais dont on sait que son principal défaut, c'est pas le talent, c'est la continuité. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a du mal à faire des saisons complètes. Mais je pense que la motivation, il aura l'envie.
Voilà, il a les capacités du buteur, pas que, du relayeur, du passeur. Mais bon, tout ne doit pas reposer
mais
sur lui.
Si Luis Enrique s'en va, ce qui apparaît probable, le mec, il veut partir, tu n'as pas intérêt à le garder.
Oui.
Ça te laisse Jonathan
Rowe, c'est la base.
Neil Mopé.
Voilà. Point d'interrogation, Mopé, je pense qu'on n'a pas l'intention de le conserver. Qui ne cadrerait pas avec...
D'après les infos qu'on peut avoir, Franck, sous toute réserve, sa mentalité plairait à De Zerbi parce qu'il ne fait pas de problème dans l'équipe. Même s'il ne joue pas, il ne fait pas d'histoire.
Il est exemplaire dans son comportement.
Il est exemplaire dans le comportement, dans l'investissement. Il rentre 10 minutes, il se met minable. Voilà. Donc... peut-être tu le garderas. Tiens, Moumbagna aussi, qui revient de blessure.
Nous en parlions sur les émissions précédentes. Peut-être va-t-on le revoir.
Je pense que si tout se passe bien, on le revoit.
Quelques minutes de jeu.
Si tout se passe bien, il le fera rentrer contre Rennes pour qu'il rejoue un quart d'heure en
avec un scénario favorable.
Voilà, ça voudrait dire que le scénario est bon. Voilà. Mais donc, ça veut dire que peut-être il faudra prêter un joueur.
Et oui.
Peut-être un jeune, parce que Kélian Abdallah et Robinho Vaz sont intéressants, mais les balancer en Ligue des Champions, c'est peut-être un peu les mettre en danger. Quoi. Non,
pour les aider, il faut les prêter dans un club pour
qu'en Ligue 2, pour qu'ils progressent et qu'ils jouent une trentaine de matchs.
On peut pas les brûler d'entrée.
Mais tu peux les garder, mais en remplaçant de remplaçant, ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes au moins un mec, si ce n'est deux, de pointure, des joueurs de qualité.
Donc de la qualité, de la quantité sur une bande de touche.
Parce que sinon, Ligue des Champions, tu peux... Après, c'est toujours pareil. Tu peux avoir des blessures, pas de blessures, tout va bien.
Et oui, c'est très aléatoire.
Tu peux pas contrôler un mec qui se fait les croisés. Qu'est-ce que tu veux faire
Au-delà d'une excellente préparation, peut arriver.
Oui. On l'a vu avec la blessure de Balerdi. C'est une torsion du genou en disputant un ballon. Qu'est-ce que tu veux faire
là-dessus
Tu peux pas faire grand-chose. Mais il va falloir quand même que l'équipe se renforce. Si on est en Champions League, donc mettons pas la charrue avant les bœufs.
Ouais.
D'abord la qualif, et après on verra le renforcement de l'équipe. Et en tout
cas... J'ose imaginer qu'ils ont ça en tête, qu'ils sont déjà en train de négocier en loose day, comme on dit, pas officiellement.
En loose day, ouais. Comme disait Benatia dans son interview à La Provence, la qualif ou pas qualif, direct, pas les barrages. Parce que les barrages, tu n'es pas sûr jusqu'au 10 août. Quoi.
On a connu ça.
Voilà.
Malheureusement.
Si tu es éliminé, tu es en Ligue Europa. Quoi. Donc, je veux dire, ce n'est pas la même chose. Financièrement, mais même sportivement, pour garder un Rabiot, pour faire venir un ou deux joueurs de haut niveau, il faut la Ligue des Champions. D'ailleurs,
c'est la base.
J'en crois les journaux espagnols, à savoir As, le journal madrilène, Laporte, dit que Laporte cherche un club qui jouera la Ligue des Champions.
Ah, ça pourrait correspondre à nos attentes, alors.
Donc, si pour 10-15 millions d'euros, tu arrives à le racheter en Arabie, une bonne remise à niveau physique, un début de saison, et tu as un joueur quand même.
Ouais. Qu'en est-il de son niveau physique? Alors, je ne regarde pas ce championnat. Bon, j'entends... bon, nous avons recruté un joueur qui est d'un autre club.
oui, qui est tout le temps blessé.
Oui, voilà.
Luis Felipe Ramos,
j'ai failli son nom, du coup.
Voilà.
Ouais, mais on n'a pas pu, justement, apprécier sa capacité à avoir ce rôle dans cette équipe.
Alors moi, d'après ce que j'ai vu, puisque j'avais vu sur la chaîne L'Équipe, en Ligue des Nations, les quarts de finale, l'équipe d'Espagne contre le Danemark, sans Højbjerg qui a été blessé, qui n'a pas joué d'ailleurs, et Laporte, il a fait ses matchs. Et on l'a vu avec Kanté au championnat d'Europe des Nations, qui revenait, qui joue en Arabie Saoudite. Après, on a vu aussi que Kanté, les 2-3 premiers matchs, il était en pleine bourre, il bouffait tout. Puis après, physiquement...
Tu as le contre-coup, tu chutes là, physiquement.
Il a plongé parce que... En raison du climat, entre autres, en Arabie Saoudite...
Il y a un ensemble de facteurs...
Les entraînements, c'est pas en Angleterre. Voilà. Les entraînements, c'est plus compliqué. Et ils ont un problème d'aligner les matchs à un rythme de Ligue des Champions.
C'est légitime. C'est-à-dire,
tu joues tous les 3-4 jours.
Ce sont des êtres humains.
Voilà. Et donc, c'est compliqué. Mais bon...
C'est pour voir un petit peu, justement, le fait que Laporte, à son âge, bon, il n'est pas vieux, hein,
il a
30 ans,
oui,
mais
oui.
De retrouver cette fonctionnalité du football européen sa démarche physique et son intégration. Bon, moi, j'irai le chercher s'il le faut, même si je n'ai pas de voiture, je me débrouillerai. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un joueur, un profil plus qu'intéressant.
Ah oui, c'est un mec expérimenté, qui a joué en équipe nationale. Et à Man City, qui a gagné une finale de Ligue des Champions, même s'il était sur le banc, il était remplacé à l'époque, c'est ça qu'il était parti. Mais je veux dire, c'est un mec qui a été titulaire à Man City pendant plusieurs années et qui a fait ses preuves. Après,
parce qu'il peut y avoir des chamboulements à tout moment, on est sûr... à un moment donné, d'avoir une défense qui se profile avec des joueurs, et puis peut-être avoir un nouveau joueur qu'on n'attendait pas, ou un départ improbable qui arrive, donc tout est possible.
Nous verrons bien, parce qu'on ne peut pas savoir.
Il est un peu tôt.
D'après ce qui se dit, par exemple Greenwood, on parle d'une proposition à 30 millions par an de salaire, net évidemment, en Arabie Saoudite. Est-ce que le mec il va pas regarder partir prendre les billets? Il est jeune.
Apparemment,
quand même.
Son père est très proche de Roberto De Zerbi et présent aux côtés de son fils.
Après, si le gamin il dit je prends 30 millions net d'impôts, j'ai un contrat de 5 ans, ça fait réfléchir. Voilà.
Oui.
Donc, tu n'es jamais à l'abri, comme tu n'es jamais à l'abri d'une blessure. Donc, il va falloir, mais je le redis, priorité la qualif.
Oui.
Après, une fois que tu es qualifié, tu cherches à renforcer. Et le fait d'être qualifié en Ligue des Champions te permet une marge de manœuvre.
Il faut tout de même l'anticiper. Malgré piège financier nous tend les bras en cas de désillusion.
Oui, parce que s'il n'y avait pas de qualif, il faut rappeler que bon, McCourt, il n'y a pas de problème. Il mettra l'argent, il comblera la DNCG. C'est la garantie que tu ne fasses pas Bordeaux.
S'il vend son avion, pas suffire.
Que tu ne sois pas en faillite. Non, McCourt, il a quand
Je
même...
Je blague.
Il a les moyens. Il veut acheter TikTok aux États-Unis. Enfin, bref. Donc, il a les ronds. Il faut mettre 50 millions. Il les met.
Va-t-il continuer à mettre tous ses œufs dans le même panier?
Voilà, il les a déjà mis. Après... Si tu n'es pas qualifié, tu n'as pas le même recrutement parce que tu as des joueurs qui ne veulent pas venir. Et puis, tu ne peux pas verser des salaires ou des primes à la signature si tu n'as pas une garantie de 50-60.
Tout va partir de là. La qualification qui va justement...
en Ligue des Champions. C'est d'ailleurs un des problèmes de l'OM, c'est que là, cette année, on parle d'un déficit entre 70 et 80 millions d'euros. Si tu prends 50-60 en Ligue des Champions, ton déficit...
Ça ne suffira pas à compenser.
Voilà, il est très minime. Et donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas être qualifié.
Et la NCG grogne un petit peu.
Oui, mais c'est-à-dire, avec le problème des droits télé, je rappelle que le contrat avec DAZN s'arrête à fin mai, à la fin du championnat. DAZN file 100 millions d'euros pour compenser le fait qu'ils ne vont pas jusqu'en décembre comme c'était prévu dans le contrat.
Ça reste une goutte d'eau. Hein.
C'est une négociation. 100 millions à 18 clubs, je te dis, tu ne vas pas loin. Et c'est la Ligue qui va monter sa chaîne, qui vont essayer...
C'est toujours un projet. Voilà, seulement, la Ligue doit justement faire en sorte que cela n'arrive pas. Et son ingérence est quand même... On en paie les pots cassés au niveau des clubs, des présidents.
On en paie au niveau des erreurs qui ont été commises, on le paye très cher. Et là, ils cherchent où c'est que la chaîne de la Ligue elle, pourrait être diffusée. Ils essaient de renouer avec Canal. C'est
voilà.
pour ça qu'ils
ont
pris...
Une autre formule avec des annonceurs comme Bein ou Canal.
Voilà. C'est comme ça, pour ça qu'ils ont pris Nicolas de Tavernos, qui a de très bons rapports avec Canal. Qui est un mec qui a travaillé longtemps sur M6, TMC et compagnie, il connaît le milieu, il connaît le job, il a été président des Girondins de Bordeaux pendant
c'est
8 ou 10 ans, et donc lui, pour renouer les liens, parce que ta chaîne de la Ligue, qui la diffuse ?
C'est ça.
Voilà. Donc tu es obligé de te retrouver sur un bouquet style Canal. Hier soir, je regardais le match à la télé, Paris, donc Arsenal, je regardais sur Canal Plus Foot, pas sur Canal Plus. Mmh. Il y avait un film. C'était Canal Plus Foot.
Oui, c'est-à-dire le groupe.
C'est le bouquet, il faut être abonné. Mmh. Bon, mais tu as Canal, tu as des films, tu as des séries, tu as la Formule 1, tu as le rugby, tu as des trucs. Moi, je regarde très souvent, donc tu t'abonnes. Alors que DAZN, tu t'abonnais que pour le foot, quoi. Voilà. C'est pas la même chose. Oui. Et là, il va falloir trouver, tu sais pas encore, et en fonction du nombre d'abonnés, ce qui veut dire lutter contre le piratage, parce que les gens, ils ont pris des mauvaises habitudes.
Et... Donc, des habitudes qui ne diffèrent guère que... Voilà, ça fait des années que ça dure.
Ça fait cher, mais là, vraiment, ça a explosé. Ça veut dire que si tu as ton 1,5 million d'abonnés, comme voulait DAZN, tu deviens rentable.
Alors, qui va se lancer justement dans cela ?
Voilà, donc toi, tu produis tes images et il faut que tu trouves quelqu'un qui te porte ta chaîne, qui te la mette à l'antenne, pour que les gens ils puissent aller. Tu ne vas pas faire un abonnement Ligue de football, tu n'aurais que la Ligue.
Il faut mettre cela en place, ce n'est pas gagné. Et je dirais que tout va très vite et il va falloir du temps pour mettre cela en place. Ça ne sera pas justement l'année prochaine que nous pourrons avoir une chaîne dédiée au football.
C'est sûr que la meilleure solution serait d'être sur le bouquet de Canal.
Oui.
Parce que les gens sont déjà abonnés.
C'est une formule justement sur laquelle Tavernos va probablement pencher.
Oui, c'est là-dessus qu'il va aller. Parce que le problème avec DAZN ou d'autres, c'est que dans les familles, les enfants sont contents d'avoir, ils ont Disney+, ils ont des feuilletons, ils ont d'autres sports, ils ont des films. Tu t'abonnes, ça glande pas. Tu t'abonnes à DAZN rien que pour le foot et pour la Ligue 1.
Voilà, payer aussi cher pour voir la Ligue 1 et en même temps...
À 40 euros, tu t'étonnes que les mecs ne soient pas abonnés. 40 euros, voilà.
Vu le piratage comme temps, ça t'incite pas justement à t'abonner. Bon, ceci dit, on va faire justement fermer la parenthèse des annonceurs et diffuseurs probables et prochains. Oui. Bon, ça sera justement une formule obligatoire pour le bon fonctionnement de notre Ligue 1. Voilà. Et c'est pas gagné, là on peut le dire, on peut le penser.
Oui,
pensons à nous déjà.
Parce que en dehors des problèmes type Montpellier, tu as des équipes qui ont anticipé comme Lens. Mais après, il faut pas s'étonner que l'équipe elle plonge quand tu vends tes 5 meilleurs joueurs.
Après, c'est la Bérésina.
Oui, c'est sûr qu'il a pris 80 millions d'euros, mais il a vendu les 5 meilleurs. Quoi. Ton gardien, tes deux défenseurs centraux, ton arrière latéral qui était le meilleur passeur, là, le Polonais Frankowski.
Ben voilà, Lens se retrouve, il flirtait avec les places européennes, et il se retrouve 8e à 45 points.
Complètement largué, ils sont
à 9 points de Strasbourg.
Voilà, donc c'est mort. Et du coup, en plus du contre-coup psychologique pour les joueurs et pour l'entraîneur, à qui tu as dit il faut viser l'Europe, et tu enlèves les 5 meilleurs joueurs de l'équipe. Quoi. Le mec, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient en train de regarder ailleurs. Quoi.
Là, ce n'est pas couper l'herbe sous le pied, c'est carrément c'est couper les jambes. Hein.
Donc, on sait que tu vas avoir une année très difficile parce qu'il n'y aura pas le droit télé.
Donc, beaucoup d'équipes, justement, impactées par cela.
Vont être en galère. Et. Heureusement que là, tu te dis heureusement que tu as un... Et même une équipe comme Lyon,
ouais,
qui a des problèmes financiers.
Alors, d'où les gueulantes à répétition de Taxtor.
Voilà, on qui comprend, fait, voilà, qui fait qu'il est en train de préparer sa défense. On lui avait en rouge à Saint-Etienne.
Ah,
lui qu'il n'a pas mis, on nous a faussé le résultat et tout. Mais il va faire du cinéma, mais après il a 500 millions de dettes, il pourra dire ce qu'il veut, il a 500 millions
justement,
de dettes.
Justement, donc c'est cruel, ceux qui ne seront pas qualifiés en Ligue des Champions, et Lyon justement appelle à cette qualification qui, on en revient à ce classement, ils ont, oh là là, ils ont 4 points de moins que nous, ils sont toujours dans le coup avec Nice et Strasbourg à 54 points. Donc, voilà.
Sauf qu'ils ont un match, la 33e journée, ils jouent à Monaco.
À Monaco, ouais. Il y a ce match-là
qui risque de faire mal parce que 54, tu n'as pas de marge.
Et c'est ça.
Alors, Strasbourg reçoit Paris ce week-end. On verra comment Paris, est-ce qu'ils jouent ou est-ce qu'ils font comme contre Nice où ils s'en foutent et ils pensent au match de Ligue des Champions.
Ah ouais.
Ce qui est humain, mais enfin, ça fausse un peu parce que...
Ah ben là, il ne faudrait pas que ce soit le cas parce que Strasbourg est là et il risque
Strasbourg n'est
de...
pas loin s'il venait à faire un truc. Parce que Nice, là, ils se retrouvent à 54.
Ah, de tout chambarder.
À la course, et parce que tu as gagné à Paris, quoi.
Ah, pétard.
En temps normal, qui prévoit gagner à Paris, quoi. Voilà. Et donc, alors, moi, j'ai vu le match. C'est pas qu'ils n'ont pas joué.
Face à Nice.
N'ont pas joué, mais c'est tenté que les mecs, ils n'étaient pas trop là dans la tête.
Oui, ben, le résultat est criant. Hein, ils s'en sont pris 3, ils en ont marqué 1. Mais bon, on peut parler de multiples occasions parisiennes, non concrétisées.
Oui, que le gardien de Nice, Boulka, a fait un super match. Mais enfin, moi, j'ai vu le match d'hier. Au niveau de l'engagement du rentre-le-dedans, il n'y avait pas photo, quoi.
Voilà, ils n'ont pas fait le même match que face à Nice,
dans
face à Arsenal.
Dans un cas, tu n'as pas les pieds, parce qu'il y a peur de te blesser à 3 jour du match de la Ligue des Champions et dans l'autre cas tu y vas quoi.
Alors espérons que quand ils joueront face à Strasbourg ils ne lèveront pas le pied ce qui malheureusement est fort probable
et possible, possible. Voilà. Et donc si on arrive à faire un résultat pour revenir au match de Lille, alors je parle pas forcément de gagner mais même un match nul, tu restes second. Tu maintiens tout le monde derrière.
Merci Patrick de dire que notre destin est entre nos pieds.
Voilà.
Et nous, est en nous. Il ne faut pas compter sur les défaillances des autres. Il faut qu'on aille au bout.
Et Lille est une bonne équipe qui joue bien. Alors on peut espérer que David, par exemple, en fin de saison, l'international canadien qui fait les allers-retours pour les matchs d'équipe nationale au Canada, qui a joué la Ligue des Champions, qui en plus est leur seul grand attaquant, quoi. C'est le seul vrai buteur qu'ils ont. Il a très peu tourné, on peut espérer qu'il fatigue. Enfin, il a quand même marqué...
Il est un peu fatigué ces derniers matchs.
Ces dernières semaines.
Bon, ils se refont toujours la cerise face à nous. Bon,
voilà.
Allez, je le répète, on va le faire. On a notre destin entre les pieds et ils vont concrétiser justement nos attentes.
Voilà, on va être optimiste et on espère la semaine prochaine vous dire au cocorico, on est à 90% en Ligue des Champions.
Oui, et on montera le pourcentage.
Voilà. Ça dépendra après des autres résultats, hein,
oui.
Parce que tu dépends toujours des autres.
C'est toujours le cas. Ouais.
Tu parlais de Lens, par exemple. Lens, ils ont perdu 2 matchs de fil à la maison. Chez eux, ils sont pris 4-0 contre Auxerre, mais ils avaient perdu aussi... je crois contre Reims un peu avant.
Ouais, c'est contre Reims.
Reims il y a 15 jours.
Justement, qui lutte
pour
le maintien.
Et bien, 6 points, ils seraient à la lutte pour l'Europe. Mais là, ils sont loin, quoi. Ils sont à 9 points, donc c'est mort.
Ça vite dégringolé.
Ah, ça dégringole vite.
Équipe,
Rien
n'est moins sûr. Mais enfin, nous y croyons et ça va le faire.
L'avantage que je pense le staff jouera, c'est que même si tu venais à perdre à Lille, tu n'es pas mort.
Voilà, c'est pas irrémédiable ça, une défaite.
Si Monaco gagne à égalité avec Monaco et à un point de Lille.
Ben nous dépendrons des résultats des autres équipes.
Si tu fais le plein derrière, c'est largement jouable quoi. Nous verrons bien.
Oui.
Espérons.
Au-delà de l'espoir, on est dans l'attente qui va se concrétiser.
Voilà.
Donc on va terminer sur une note positive. Oui. Au-delà des encouragements que nous donnons à l'OM, à notre équipe féminine également, avec une probable accession à venir. Et nous, nous allons nous qualifier pour la Ligue des Champions. C'est tout ce que nous voulons.
Voilà, c'est tout ce que nous espérons.
Merci Patrick, merci à toutes et à tous. Et à très très bientôt sur Fréquence Mistral.
À la semaine prochaine. Au revoir.